après j'ai mon chemin au cachet oriental. J'ai réfuté totalement cette histoire.
Moi, c'est une de compagnie au passage. En combinant les deux, ça de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. La délégation syndicale de la Société commerciale des transports et ports STTP s'oppose à l'idée du gouvernement de privatiser les ports de Boma, de Matadi ainsi que le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Elle a adressé une correspondance à ce sujet vendredi 16 octobre au Premier ministre Matata Mponyo. Les syndicats de la STTP demandent au chef du gouvernement de sursoir à l'appel d'offres portant sur la privatisation à moitié de la STTP. Une autre opinion estime que cette privatisation qui entre dans le cadre de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État pourra contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Héritier Sidia Kela et Julie Pesa assure la réalisation et le standard. J.R. Lungembo est à la coordination et Pierrot et la Mejibou le présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h15 local. Venez nombreux vous tous, acteurs politiques, société civile, étudiants, à cette grande émission au centre Aroupé sur l'avenue Kinela Balanda, commune de Lubumbashi, prendre la parole dans cette édition spéciale pour les 70 ans des Nations Unies.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans la province. Vous êtes à Boston pour le détail de nos amis Marc et Baba et Kisangani.
Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC et d'autres sujets qui vous concernent. Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi, c'est le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h15 local au centre Aroupé avec Pierrot et la Meji. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Voilà pour les amis de Lubumbashi, le rendez-vous est pris le mercredi 28 octobre de 11h à 12h15 heure de Lubumbashi, bien sûr, pour cette édition spéciale des paroles aux auditeurs consacrée aux 70 ans des Nations Unies. On se retrouve le mercredi prochain. Mais ici, à Kinshasa, dans cette émission, nous parlons de ces projets de privatisation à moitié de la Société congolaise des transports et des ports initiés par les gouvernements, mais qui ne rencontrent pas l'assentiment de syndicalistes de la société qui estiment que ceci est fait en violation de la loi portant des engagements de l'État dans les entreprises du portefeuille de l'État. Qu'en pensez-vous? Mais une autre opinion estime plutôt que cette procédure pourra mieux contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Votre point de vue, le bienvenu au 081-890-6315. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Bonjour et bienvenue, Maître Adrien.
Bonjour, Thierry Lamengi. Merci pour la parole que vous m'accordez.
Et on vous écoute, Maître.
Oui, merci, Thierry. Comme je vous ai dit, je pense que je suis derrière la délégation syndicale. Donc, je soutiens la position de cette délégation syndicale parce que je me dis, nous risquerons d'assister à un désordre organisé. Et ce désordre-là ne permettra pas cette grande entreprise d'évoluer et de continuer. De un, Pierrot, nous devons d'abord nous poser la question pourquoi, lorsque les études se menaient pour soutenir ces entreprises qui étaient à mal en point, donc étaient en difficulté, entre autres la SNPC, les CPTEC, Onatra et bien d'autres, il y a une opinion, et moi j'étais parmi cette opinion-là, qui voulait à tout prix qu'on puisse privatiser toutes ces entreprises, en donnant comme corollaire l'exemple de la SNCC dans les années 90 avec M. Klaas. Nous avions dit que lorsque Klaas prenait la direction de la SNCC en tant que privé, nous tous, nous avions eu les résultats. Mais à l'époque, personne ne nous croyait et personne ne voulait qu'on puisse privatiser ces entreprises. On a pris une option, c'est-à-dire ces entreprises-là étaient devenues des entreprises commerciales, donc au jour d'aujourd'hui. Et donc SPT, AIX Sonatra, SMTC, ce sont des entreprises commerciales. Maintenant, la question que nous autres, nous nous posons, lorsque cette opinion du gouvernement estime qu'il faut privatiser une partie de cette entreprise-là, quel sera le statut maintenant de l'ex Sonatra? Ce sera une société commerciale et privée, ou ce sera comment? Or, sur le plan des droits, alors que nous lisons même les droits commerciaux, nous ajoutons aussi donc les droits OADA, ce n'est pas admissible et ce n'est pas faisable. On ne peut pas faire des choses comme ça. Soit on lève l'option, ça devient une entreprise totalement privée, c'est-à-dire dirigée par une main d'œuvre privée, ou soit l'option actuelle, c'est une entreprise commerciale pointée. Donc c'est comme ça que les choses doivent se faire. Deuxièmement, je me dis encore, Pierrot, qu'est-ce que le gouvernement veut faire vraiment de cette entreprise? Parce que cette façon-là de faire, c'est comme si on veut brutaliser les travailleurs. On n'a pas pitié de ces travailleurs-là lorsqu'on veut privatiser une partie. Et surtout que nous, dans notre province Kassai occidentale démembrée, la société là, ex-Onatra, se trouve aussi à Ilebo, mais lorsque on prend les ports qui devraient être privatisés, on ne cite pas Ilebo, on cite Kinshasa, on cite Matadi, on cite aussi un autre port, je ne sais pas lequel, et je me demande maintenant comment ça va se faire donc une partie qui se considérera totalement comme une société commerciale, entre autres Ilebo et d'autres ports, et une autre partie qui sera privatisée, je dis que c'est un désordre tout simplement, et c'est comme ça que moi je suis en train de soutenir l'opinion donc de la délégation syndicale, parce que même pas sur le plan des droits, mais sur le plan logique, ça ce n'est pas admissible et ce n'est pas correct de cette façon de faire du gouvernement. Je demande au gouvernement de revoir un peu sa pensée. Cela, ce n'est pas une décision, c'est une pensée exprimée, mais qu'on puisse tout simplement retirer cette pensée. Elle est mauvaise, elle ne dira pas la performance de l'entreprise comme cette deuxième opinion pense. Au contraire, cette pensée du gouvernement risque de détruire et clouer même au sol.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez qu'il serait mieux de laisser la Société Congolaise des Transports et des Ports fonctionner comme cette société commerciale après la transformation des entreprises du portefeuille. Et pour vous, ça sera difficile que la société soit à moitié privatisée. Ça risque de créer des désordres. Ça ne pourra pas résoudre la question de fond. Mais quand on regarde aujourd'hui la loi numéro 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'État, des entreprises du portefeuille, Adrien et tous les autres auditeurs. Quand nous regardons l'exposé des motifs, la loi dit que les programmes de désengagement s'inscrivent dans le contexte des réformes économiques des entreprises par les gouvernements, parce qu'ici le gouvernement s'est rendu compte que les entreprises publiques caractérisées dans leur fonctionnement par une insuffisance ou un manque de performances financières, économiques et sociales nécessitent des ressources importantes que l'État ne peut pas leur assurer. Et c'est dans ces conditions qu'elles ne sont plus capables d'assurer aujourd'hui les prestations que la communauté nationale attend d'elles. Leur endettement et leur manque de rentabilité entraînent ainsi une charge supplémentaire pour les finances publiques. Et c'est comme ça, dans le souci de la libéralisation de l'économie nationale, c'est comme ça que l'État justifie son désengagement dans ses entreprises. Et c'est de cette façon qu'on peut ouvrir à une privatisation. Et c'est ce que le gouvernement a initié pour la Société Congolaise des Transports et des Ports, que ce soit les ports de Boma, de Matadi, les chemins de fer Matadi-Kinshasa, en estimant que l'État ne peut pas aujourd'hui supporter le coût de toutes les charges nécessaires. Mais pour vous, cela risque d'aggraver le problème qui est les résoudre. Merci beaucoup, Maître Adrien Eddy. Vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, Eddy, et bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierron.
Voilà, on vous écoute, dit. Pensez-vous que cette procédure, comme la loi le prévoit de la privatisation, peut résoudre la question de la performance de l'ex-Onatram, ou bien faudrait-il aujourd'hui, comme les syndicalistes ont pensé qu'il y avait un plan de redressement, il fallait aller avec ce plan de redressement et son évaluation, voir que l'entreprise n'est pas à mesure aujourd'hui de pouvoir se redresser et après penser à la privatisation. Quel est votre point de vue, Eddie?
Bon, mon point de vue est celui-ci. Dernièrement, nous avons suivi le rapport du FMI qui nous demande de diversifier notre aide. Lorsque nous regardons bien, nous avons des entreprises publiques qui sont des canards bâtés. Et ça nécessite des millions, si pas des milliards, pour redresser toutes ces entreprises-là. Alors, l'État a pris l'option de permettre que les privés mettent aussi leurs investissements privés. Moi, je soutiens cette option. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas suffisamment de moyens. Nous avons un budget de 5 milliards de dollars. Nous n'avons pas de moyens à mettre dans la SNCC, dans l'ONATRA, dans toutes ces entreprises-là pour qu'elles se redressent. Un peu comme ce qui s'est passé. Je voudrais bien donner cet exemple pour que mes compatriotes comprennent bien. La Gécamine n'avait plus de fonds de roulement, n'avait plus de moyens pour produire. Alors, elle a cédé quelques mines au privé pour que les privés produisent. Parce que la production moyenne d'une zone, c'est à peu près 3 000 dollars. Vous vendez à 5 000, 6 000, 7 000. Or, la Gécamine n'avait pas ces moyens. Alors, il fallait faire venir les privés. Et l'arrivée des privés aujourd'hui a boosté la production cuivre. Nous étions à 18 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1 500 000 tonnes à peu près. Parce que les privés sont venus, ils ont construit des usines pour commencer maintenant à exploiter ce cuivre-là que la Gécamine n'était plus à même de produire. Maintenant, du côté OCPT, de ce côté-là aussi, faisons venir les privés. Ils viendront avec leurs moyens, ils vont acheter les rails, les traverses pour réhabiliter la voie ferrée, ils vont acheter les engins, ils vont des ports pour moderniser, faire à ce que ces ports-là soient rentables et que le transport soit fluide vers Kinshasa. Alors, voilà, pour avoir ça, il faut faire venir le privé. Maintenant, de l'autre côté, je donne aussi raison aux syndicalistes. Quand ils disent qu'il faut bien le patrimoine, monsieur Pierrot, il y a ceci. Avant que le privé ne vienne, on va évaluer le patrimoine. On dit, par exemple, avec tout ce que l'OCPT, la Société de Port et de Transport dispose, tout ceci peut être évalué à 1 milliard. Alors, nous amenons 500 millions. Si le patrimoine est 1 milliard, vous amenez 500 millions, c'est-à-dire le tout va donner 1 500 000, nous aurons 66%, vous 33%. Maintenant, les syndicats disent que l'évaluation du patrimoine a été mal faite. On a minoré ça. Il faut qu'on fasse une bonne évaluation du patrimoine pour qu'on sache maintenant qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que vous apportez pour que nous puissions maintenant partager les actions. Parce que pour le moment, cette entreprise est à 100% une entreprise de l'État. Maintenant, l'État veut céder une partie. Ça peut être 25%, 30%. Maintenant, ce qu'ils vont amener, c'est en fonction de ce qu'ils vont trouver. Alors, moi, j'ai soutenu les syndicalistes. Il faut que l'évaluation soit bien faite. Et si l'évaluation est bien faite, syndicalistes, alors là, les privés peuvent maintenant venir.
Voilà. Oui, Eddy, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, merci beaucoup. On vous a suivi, Eddy. Vous estimez qu'il faudrait soutenir cette politique avec l'exemple de la Gécamine qui n'avait pas de moyens, de capitaux nécessaires pour booster sa production. Mais le fait d'avoir ouvert le marché au privé, ça a permis aujourd'hui quand même à la Gécamine de pouvoir augmenter sa production. C'est ce que vous estimez aussi avec la SCCP. Vous estimez que s'il faudrait ouvrir les capitaux privés, mais tout en restant vraiment dans l'évaluation exhaustive et positive et réelle, bien sûr, du patrimoine, comme le prévoit la loi, parce que les syndicalistes ont insisté pour dire que non, voilà, l'évaluation qui a été faite du patrimoine a été minorée, et dans ces conditions, il sera difficile de savoir qu'est-ce que la société possède aujourd'hui comme actif et passif, et quand, si jamais il y a des privés qui vont venir, comme ça, on pourra avoir une vision réelle et exacte, et ça peut aider la société à être redressée. Mais du moins, votre souci, c'est ce souci-là, que tout soit fait en fonction de ce que la loi prévoit. Merci beaucoup, Eddy. Vous êtes à Lubumbashi, Eddy. N'oubliez pas que nous serons avec vous le mercredi 28 octobre pour une émission en direct consacrée aux 70 ans des Nations Unies à Lubumbashi. Vous pouvez aussi sensibiliser d'autres auditeurs et compatriotes de Lubumbashi. Merci beaucoup. Arsène, vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. Bonjour, Arsène.
Bonjour Monsieur Fibre et bonjour à tous les auditeurs.
Et ici, le point de vue sont partagés. Les uns pensent que vu les difficultés aujourd'hui, comme la loi reconnaît à toutes ces sociétés qui ont été transformées, d'après ces processus qui a été lancé et les difficultés continuent, alors l'ouverture des sociétés aux capitaux privés peut résoudre les problèmes de leur performance. Mais carrément, vous avez suivi Maître Adrien qui estime que le temps où on avait fait des propositions sur la privatisation, ça n'a pas pu marcher, mais en ce moment, ça sera difficile que ces sociétés qui évoluent comme commerciales aujourd'hui, il faut tant mieux améliorer leur gestion et les laisser fonctionner en tant que telles. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Et parce qu'on a quand même besoin d'avoir la Société congolaise des transports et des ports performante et jouer son rôle dans l'économie nationale comme dans les temps passés, Arsène.
Merci beaucoup pour la parole, M. Théo. Moi, je crois que comme les avis sont partagés, vraiment, je crois que les Congolais tiennent à leurs entreprises et tiennent aussi à la production et au développement. Je crois que cette histoire est partie d'abord à partir de la faiblesse de nos entreprises. Aujourd'hui, on est en train de chercher à privatiser. Moi, j'ai toujours pensé que ceux qui sont contre, ils ont des éléments qui leur poussent à devenir contre cette initiative. Et la privatisation en soi n'est pas mal. Mais il faut voir comment on l'a fait. Et ici chez nous, moi j'ai toujours pensé que, avant de voir, quand on parle de privatisation, on voit directement les consortiums au niveau international. Mais j'ai toujours pensé que, quand on veut faire quelque chose comme ça, il faut voir d'abord les Congolais. Le peuple congolais, en soi, dans notre budget, on n'a pas assez d'argent. Mais il y a des privés quand même qui ont assez de moyens. Parce que moi, je pense, la fois passée, on a parlé de l'entreprise qui ouvrait pour la production du cuivre au Katanga avec un budget de près de 7 milliards ou 1 milliard de dollars, où j'avais posé la question de savoir quelle était la part réservée exclusivement aux Congolais. Donc, quand on fait quelque chose comme ça, il faut mettre les Congolais, le peuple congolais, les citoyens congolais en avance d'abord. Parce que nous risquons de prendre nos entreprises et mettre ça sous la coupe des consortiums au niveau international. Si on pouvait suivre l'exemple des Égyptiens, c'est l'exemple que moi j'ai pris la fois passée. Les Égyptiens, quand ils ont construit le second canal de Suez, je crois que le maréchal Assisi a préféré d'abord faire appel au peuple égyptien. Aujourd'hui, si nous faisons appel et que nous ouvrons les capitaux aux Congolais d'abord, avant de penser au niveau international, je crois que même un petit citoyen peut venir payer ses actions. Il peut payer 10 000, 5 000, 1 000 dollars et sélectionner en globalité, vous verrez que nous pouvons trouver les capitaux qui nous seront nécessaires. Parce que là, le pouvoir est interne d'abord, le pouvoir financier est interne. Là maintenant, les Congolais peuvent avoir un certain pouvoir et demander au niveau international si on pourrait bien venir nous assister. Mais si on ose aller tout droit vers la communauté internationale, je crois que nous perdons une partie du pouvoir dans ces entreprises-là. Et surtout, je dis ceci, j'insiste beaucoup, la main qui donne est toujours au-dessus. Nous verrons après la production. Quelle serait la production? Parce que l'idéal, c'est beaucoup produire. Et dans cet idéal-là, nous devons tenir plus à notre souveraineté. La souveraineté ne se suffit pas seulement au niveau politique, même au niveau financier aussi. Nous devons avoir une certaine souveraineté. Cette souveraineté ne peut venir que des capitaux qui viennent des Congolais, des patriotes congolais. Je crois que en mélangeant les deux, et prendre l'avis d'un côté du syndicat et l'avis du propriétaire qui n'est autre que le gouvernement, on peut trouver une solution, comme le dit notre introduction de l'émission Parole Vite. Voilà un peu mon avis dans cette histoire.
Merci beaucoup Arsène. Vous estimez d'abord que l'ouverture de ces marchés, hein, la privatisation, il faudrait d'abord plus privilégier les nationaux, cela veut dire les entreprises congolaises qui ont les capitaux nécessaires, vous pouvez bien les injecter dans la société, au lieu d'ouvrir le marché aux investisseurs étrangers, il faut d'abord penser aux Congolais, c'est une façon aussi de valoriser l'économie locale, les investisseurs locaux, en écoutant les uns et les autres, on peut arriver à résoudre cette question. Merci beaucoup Arsène de nous avoir appelé dès que vite. Nous avons Gustave qui est à Matadi dans la province du Congo central, vous êtes un agent actif au sein de la société congolaise des transports et des ports. Gustave, vous nous avez rejoint dans ce débat. Alors dites-nous, vous qui êtes en train de travailler en ce moment, vous êtes actif au sein de la société, est-ce que toutes les procédures ont été respectées, que ce soit du côté du gouvernement, du côté de la société, pour qu'on arrive à harmoniser un point de vue dans cette procédure des privatisations, des semi-privatisations, Gustave?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Moi, je dis c'est allô.
Oui, allez-y, vous êtes sur les antennes, on vous écoute.
Oui, moi, je dis ici, je ne suis pas être technique parce que je ne suis pas technicien ici, mais la société ne sera pas respectée de la manière où vous tentez de diriger cette société. Tenez, comment pouvez-vous respecter une société avec beaucoup de dépenses? Les dépenses exorbitantes, alors, je vous dis, au port international de Matadi, si vous arrivez ici au Tessin, terminal conteneur, on a trouvé à l'HTP, donc on n'a plus de engins. Nous sommes en train de louer, s'il vous plaît, je vous dis bien, je pèse mes mots, louer des engins privés. Déjà la privatisation. Et la manutention. Quand on a trouvé à diriger l'alimentation, on a trouvé à dépenser moins. Mais aujourd'hui, avec la sous-traitance de l'UFOR, on a trouvé à dépenser plus. Alors comment peut-on redresser une société avec beaucoup de dépenses? Je vois l'idée de la privatisation est vraiment bonne. Je ne vois pas, la société ne sera jamais redressée dans un euro tant que les gens cette société.
Et là, Gustave, vous estimez que à l'état actuel des choses, avec la sous-traitance, la société dépense beaucoup plus, et dans ces conditions, on ne peut pas la redresser, et vous soutenez l'idée de cette privatisation, que ça peut résoudre vraiment la question, et l'entreprise dans ces conditions peut être redressée, Gustave.
Mais si actuellement, la société ne sera pas redressée avec des dépenses.
Voilà.
La société sera quoi? La privatisation, peut-être. On peut essayer avec la privatisation, peut-être là la CD sera redressée. Ou bien tout va marcher. Parce qu'aujourd'hui, l'on a déjà combien de départements, mais allez voir combien de départements. Ils n'ont qu'ils dirigent rien. Ils sont là qu'appelés directeurs de département, mais ils consomment de l'argent pour rien. Ils sont en fonction. Vous voyez, des gens qui ont beaucoup de directeurs. Qui dépensent, qui bougent de l'argent pour rien, ils ne font rien, ils ne font pas de respect, je ne sais pas de dire de quoi. Mais l'argent sort inutilement dans la société. L'État dépense pour rien dans notre société, sans vous mentir. Et vous voyez quoi, dans quel état les gens travaillent. Venez voir, passez, menez vos enquêtes. L'instabilité, mais je pense pas si vraiment la fédé climatisée, vous allez voir toute cette instabilité.
Mais ça perd les
gens. Ils sont dans des environnements vraiment pollués, je peux dire. Venez voir. Quand tu vas au port de Matadi, vous allez chercher où mettre les pieds.
Et dans ces conditions, Gustave, merci beaucoup pour ces témoignages. Le problème est vraiment c'est profond. Vous avez évoqué la performance, les pléthores des services aujourd'hui, des cadres, mais qui apparemment n'ont pas de rentabilité parce qu'il n'y a pas du travail. Quand déjà vous dites qu'au port de Matadi, les terminaux conteneurs, la société n'a pas d'engin, on travaille sous la sous-traitance, ce qui veut dire qu'il y a un pléthore de responsables, mais qui n'ont pas du travail et par ricochet, ils ne produisent pas et dans ces conditions, c'est difficile. Ils doivent être payés pendant qu'il n'y a pas de production, l'insalubrité, la défaillance et l'environnement. Toutes ces questions, vous estimez qu'elles peuvent être résolues si jamais la société est ouverte à la privatisation. Merci beaucoup, Gustave, pour ce témoignage. Vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Confiance, vous êtes ici à Kinshasa et Gauthier est à Kamina. Confiance, merci de vous êtes rejoint à nous pour cet échange de la parole aux auditeurs. Bonjour, Confiance, on vous écoute.
Bonjour, Mbote Djambo, à tous les okapistes de la Radio de la Paix. Bon, en fait, c'est avec beaucoup de... que moi, j'ai toujours accepté la privatisation. J'ai toujours été contre tous ceux qui dépossèdent l'État de ce qui lui donne le moyen d'avoir le monopole. Il y a des secteurs de la vie d'une nation, des secteurs dans lesquels l'État est obligé d'avoir le monopole, parce que ce sont des secteurs qui, à la fois, sont non seulement commerciaux, mais des secteurs qui sont aussi sociaux. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on va avoir le pouvoir sur un secteur dans lequel on est minoritaire. En tout cas, pour moi, la privatisation, ce n'est pas une raison. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de créer les conditions d'affaiblissement du moyen ou des capacités de nos entreprises pour justifier la privatisation. Et personnellement, nous avons l'exemple. Moi, je me dis, qu'on prend l'exemple des lignes aériennes congolaises. Actuellement, on vient d'acheter les avions. On nous a parlé, il n'y a pas longtemps, de l'achat des locomotives. Mais on a acheté des locomotives sur base de quelle analyse? C'était pour en faire quoi? C'est ça le problème. Et si on peut acheter des locomotives, est-ce qu'on ne peut pas acheter des engins d'élevage? Est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas créer une politique qui fait en sorte que ces sociétés survivent? Parce que ces sociétés, en dehors d'être de sociétés commerciales, ils ont des employés. Donc, mon problème est de savoir pourquoi ne pas lutter en le sens de garder tout ce qui appartient à l'État. Ces sociétés ont fonctionné des années et des années avec les mêmes rails, et c'est plutôt la manière de gérer la société qui est mauvaise, parce qu'on ne pense pas à l'amortissement du matériel. On gère, un exemple, on gère un engin d'élevage, on gère un train, une locomotive, un wagon, mais on ne pense pas à l'amortissement. Nous avons un exemple très simple. Nous avons un besoin très important du transport en commun à Kinshasa. C'est la chose la plus facile. Qu'est-ce qui empêcherait de maîtriser d'abord le transport en commun à Kinshasa, qui peut être une source de financement, mais on préfère aller chercher des grosses histoires qui apparemment n'avancent pas. Moi, sincèrement, je suis contre tout ce qui dépossède l'État congolais de moyens de sa politique. Privatiser, c'est affaiblir l'État. Et ce n'est pas intéressant.
Mais déjà, au niveau de la loi, tout à l'heure, confiance, si je peux encore vous garder, vous avez suivi l'exposé des motifs, je venais de lire cela. Il y a, dans ce troisième paragraphe, l'État dit ceci: les entreprises publiques caractérisées dans leur fonctionnement par une insuffisance ou un manque de performances financières, économiques et sociales nécessitent des ressources importantes que l'État ne peut leur assurer. Mais dès lors que l'État ne reconnaît que les dépenses aujourd'hui pour redresser ces entreprises, pour faire face à la charge, l'État ne peut arriver à assurer cela, autant mieux ouvrir les capitaux alors au privé pour arriver vraiment à faire face, parce que vous avez évoqué les questions des gestions aujourd'hui qu'on n'est pas en mesure de le faire. Mais quand vous regardez bien toutes ces entreprises, de plus en plus elles connaissent des difficultés malgré la politique de réforme qui a été lancée avec les copyrights, mais les difficultés continuent et confiance. Alors qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace si on ne peut pas ouvrir
la politique au privé? Parce que ces mêmes entreprises ont bien fonctionné avec une autre politique qui a fait que ces entreprises ont atteint l'essor qu'ils ont aujourd'hui. Mm-hmm. C'est la politique qu'on utilise qui est mauvaise. C'est cette politique-là. Dès qu'on change cette politique-là, et c'est fini, tout va marcher.
Merci beaucoup, confiance. Vous estimez que la question aujourd'hui, c'est une question de la politique qui doit être définie dans la gestion des entreprises, parce qu'autrefois, ces entreprises ont été plus performantes et elles ont produit, elles continuent à l'économie nationale. Si on doit résoudre la question de la politique, de la vision qu'on a sur la gestion, on peut résoudre la question sans recourir à la privatisation. Merci beaucoup, confiance, de nous avoir appelé les Kinshasa. Gauthier et Jules, vous gardez la ligne. Nous allons vous accorder la parole tout de suite. 081 890 75, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h15 local.
Je m'appelle Robert, moi je suis un peu de Lubumbashi au Canada.
Venez nombreux, vous tous, acteurs politiques, sociétés civiles, étudiants, à cette grande émission au centre Aroupé, sur l'avenue Kinela-Balanda, commune de Lubumbashi, prendre la parole dans cette édition spéciale pour les 70 ans des Nations Unies.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans la province. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Boston pour les états de nos amis Marc et Bamba et Tissangani.
Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC et d'autres sujets qui vous concernent. Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi, c'est le mercredi 28 octobre 2015, de 11h à 12h, car local, au centre Aroupé, avec Pierrot et la Méji. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Voilà, les centres Aroupé, c'est les centres Aroupé pour la recherche et la formation sur l'avenue qui est la Balanda. C'est là où on va se retrouver avec vous, auditeurs de Lubumbashi, mercredi 28 octobre. Nous retournons ici à Kinshasa pour évoquer cette question de la semi-privatisation de la Société Congolaise des Transports et des Ports ex-Onatra, initiée par le gouvernement pour la privatisation des ports de Boma, de Matadi, ainsi que le chemin de faire Matadi Kinshasa. La délégation syndicale de cette société estime que l'État devrait sursoir à l'appel d'offre portant sur la privatisation à moitié de la société, tout en estimant que cette procédure ne respecte pas la loi sur les désengagements de l'État dans les entreprises du portefeuille. D'un côté, une autre opinion estime que cette privatisation, qui entre dans le cadre de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, pourra contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Beaucoup d'internautes ont déposé leurs commentaires et points de vue sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Depuis Matadi, du Umba Lusala dit ceci, je pense que c'est pas une bonne idée par rapport au site choisi. Nous devons faire des analyses pour savoir quand est-ce que la Société Congolaise des Transports et des Ports a commencé à travailler sous contrôle de l'État, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui s'était assigné dans la transformation de cette entreprise, qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui n'a pas été fait avant de pouvoir passer à l'idée de la privatisation. David Mouzemba dit ceci, étant donné que les ports de Matadi Boma et les chemins de fer Matadi Kinshasa engendrent beaucoup de recettes, le gouvernement ne pourra pas laisser cela entre les mains du comité de ceux qui sont en train de gérer maintenant, parce que nous ne sommes pas sûrs de leur performance dans la gestion. C'est ainsi qu'il faudrait ouvrir ces entreprises au privé. Cela peut résoudre la question. Devos Vanderson Vanda, qui est à Kikwite, dit ceci, quant à moi, la privatisation des ports de Matadi Boma et les chemins de fer Matadi Kinshasa n'est pas une bonne idée. Par conséquent, cela risque d'augmenter des chômeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens de la société qui vont se retrouver sans emploi, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y en a nombreux qui ne travaillent pas parce que l'entreprise est en train de connaître des difficultés. Et Serge Kaumbo, lui, je pense qu'il faut, c'est ça même la solution, il faudrait privatiser toutes ces entreprises pour le rendre plus compétitif, que ce soit la SNEL, la SSP, la Société de Congolaise des Postes et Télécommunications, la Régie des Eaux. L'État n'a plus de moyens aujourd'hui, ces sociétés doivent être privatisées. Jean-Claude Kimbungu dit ceci, il faudrait aussi penser à la privatisation jusqu'aux entreprises qui s'occupent des routes et des dessertes agricoles, parce qu'on voit les limites de l'État, malgré les péages qui sont instaurés à gauche et à droite, on a toujours des difficultés pour s'en sortir. Raphaël Onema Didi dit ceci, alors si le gouvernement continue à se privatiser, alors qu'est-ce qui va rester encore à l'État congolais si l'État ne sera plus en mesure de pouvoir gérer ses entreprises? Gauthier, vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga des Mambrés. Bonjour Gauthier.
Bonjour Radio Capi et tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Gauthier.
Oui, j'ai entendu tout ce monde qui a parlé, les auditeurs qui ont intervenu avant moi, vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut se demander par rapport à tous ceux qui ont intervenu. Et il y a un problème d'abord de cette privatisation. Qu'est-ce qui a motivé réellement la privatisation? Le gouvernement a donné cet avis de privatiser cette entreprise. D'abord, c'est la médiation. Parce que tout ce monde qui est nommé comme PDG et consort, ils ont des couleurs politiques. Alors, par rapport à l'impunité, ils font n'importe quoi que ce soit. Alors, je crois que c'est une des raisons qui a motivé aussi ce gouvernement à privatiser. La deuxième, c'est les moyens qui leur manquent. ça aussi parce qu'ils ont étudié avant de motiver cette situation. Ils ont étudié pour donner cet avis-là. Et donc, la privatisation comme telle n'est pas mauvaise. Il faut qu'on puisse privatiser toutes les sociétés de la République parce que là, nous sommes dans une situation très difficile avec un budget de 5 milliards de dollars dans un pays comme la RDC. Croyez-vous qu'on peut relever tous les défis dans des sociétés? Non. Même l'ANIMA aujourd'hui, vous savez, sa situation. Mais là, c'est le personnel même de l'ANIMA aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Au lieu de privatiser, que ces gens survivent. Donc, il faut privatiser toutes les sociétés de la République. Je crois que c'était ça mon intervention.
Merci beaucoup, Gauthier. Vous estimez que la privatisation, c'est une solution aujourd'hui parce que ces entreprises sont caractérisées par la mégestion, il y a le problème d'impunité. Et vous avez dit que les comités de gestion sont nommés souvent selon la appartenance politique et dans ces conditions, les gens s'encouragent à vivre dans la mégestion, dans l'impunité. Et ça devient difficile aujourd'hui d'avoir des moyens conséquents suffisants pour redresser ces entreprises comme notre budget ne peut pas faire face, n'est-ce pas, à ces dépenses, des charges de ces entreprises. Alors pour vous, la solution, c'est de privatiser, comme l'AMIBA aujourd'hui qui connaît aussi ces difficultés, et ça peut résoudre la question, plutôt que d'avoir des gens qui travaillent dans des sociétés où ils ne peuvent pas être payés aujourd'hui parce que les sociétés sont en difficulté, autant mieux privatiser, et ça peut résoudre la question. Ngonge Socrate nous a écrit depuis Lubumbashi, il dit ceci, je pense que privatiser n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le problème aujourd'hui, c'est d'abord la campagne qu'il faudrait mener auprès de la population pour qu'elle comprennent le pourquoi. Les syndicats doivent avoir les raisons qui font que le gouvernement prenne cette décision. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies pour faire avancer les choses dans ces pays. Entre autres, la décentralisation des entreprises publiques peut aussi aider à améliorer l'équipement des affaires en RDC. Pour terminer, la privatisation est bénéfique à la population plus que quand l'entreprise est sous la gestion de l'État et fonctionnant avec beaucoup de difficultés. Et Jules, vous êtes à Songololo, dans la province du Congo central. Bonjour Jules.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Jules.
Bon, moi je dis ceci. Je ne suis pas vraiment d'accord pour la privatisation. Pourquoi je le dis? D'abord, ce qui tire au latra, c'est l'impunité. Quand je dis l'impunité, pourquoi? Dernièrement, ils ont acheté des locomotives. Ils ont débloqué des millions de dollars juste pour aller ramasser des pourritures de locomotives dans les poubelles de l'Afrique du Sud. Alors, ces locomotives travaillent où? Et pourquoi ces gens-là ont débloqué des millions de dollars pour acheter des pourritures de locomotives? Ils ne sont même pas quittés, ils sont là, ils travaillent, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, notre État doit être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils vont privatiser, que deviendront tous ces agents-là qui vont mettre en chômage? Parce que ceux-là qui viennent ne vont pas vouloir à travailler avec tous ces pétons des familles des agents qui sont là-bas. Donc c'est notre État. Qui détruit toutes ces entreprises de l'État? C'est même l'État. Il ne veut même pas payer les dettes intérieures. Et puis, la fois passée, ils ont fait appel à une firme brocosa là. Qu'est-ce que ça donnait? Ils ont mis un bras à la tête de l'Olatra, un bon paresseux là, il arrive au bureau, il met les pieds sur la table, il regarde la télé, il ne fout rien. Et à la fin, ils étaient payés combien? C'est des millions de dollars, c'est ça qui ont été payés tous ces paresseux là. Donc c'est lui-même, il était que c'est la base des destructions de toutes ces entreprises qui cherchent à privatiser aujourd'hui. Alors même s'il faut privatiser, avec quelle modalité? Donc moi je suis d'accord avec les syndicalistes, ils ne sont pas d'accord avec cette modalité de privatisation. Donc, il voit les normes normales, comment il faut qu'on quels sont les critères à respecter pour privatiser cette société. Sans quoi, il y aura des agents qui vont mourir parce qu'ils seront mis à chômage. Il y aura des projets techniques.
Merci beaucoup, Jules. Vous avez posé là les questions de fond. Vous estimez que quand on va privatiser, c'est pas que les sociétés qui vont venir avec les capitaux ne pourront pas récupérer tous les agents et fonctionnaires. Ça sera des problèmes très sérieux. Il y en a qui vont se retrouver sans emploi. Et vous avez estimé que la question, ce n'est pas la privatisation, mais c'est plutôt la lutte contre l'impunité, la mégestion au sein de ces entreprises. Vous avez évoqué les locomotives qui ont été achetées en estimant que ce sont des locomotives aujourd'hui qui ne peuvent pas aider la société à produire et les gens n'ont jamais été inquiétés. Vous avez évoqué les contrats qui ont été signés avec la firme Progoza pour la performance de 10 millions de dollars injectés, mais sans résultat. On avait même évoqué dans Parole aux auditeurs qui est le comité de gestion s'est tapé des cagnottes colossales alors que l'entreprise est en train de s'enfoncer. Et vous estimez que le problème, c'est que l'État doit faire lutter contre l'impunité, payer la dette intérieure de ces sociétés. L'État doit autant des millions, que ce soit à la SNEL, à la Régie des Eaux, nous en avons toujours évoqué dans nos émissions, et ça peut résoudre le problème plutôt que passer par la privatisation. Merci beaucoup, Jules, vous êtes à Songololo. Nous avons Michel qui est à Matadi et professeur Robert ici à Kinshasa. Mais en attendant, nous prenons notre invité qui est en ligne, c'est Lambert Osango. Vous êtes syndicaliste, vous étiez tout à l'heure en séance de travail autour de cette question. Vous estimez que la procédure utilisée par l'État viole la loi sur les désengagements. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans cette procédure de semi-privatisation, Monsieur Osango?
Oui, merci pour la préoccupation. Il est vrai, il y a une loi, et cette loi devant être respectée par toutes les parties, il n'est pas bon que le gouvernement viole la loi qui a été votée et promulguée. Le problème au stade actuel, c'est que l'appel d'offres qui venait d'être lancé n'a pas respecté les préalables énoncés dans la loi. Et aussi les auditeurs qui sont intervenus ont fait des analyses pertinentes, en ce sens que, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez poser la question à n'importe qui la met sur les terres. Personne ne vous dira quelle est la valeur aujourd'hui de cette société que l'on voudrait proposer au privé. Parce que, simplement, même les inventaires du patrimoine, le travail est encore en train de commencer. On l'a pas encore sous la main. Comment on peut s'engager dans ces conditions-là? Une autre part importante, où nous en sommes aujourd'hui, parce que si les syndicats que nous dirigeons justement, si nous nous opposons, nous avons demandé au gouvernement de reconsidérer sa position, nous avons désapprouvé cette position simplement parce que même la part des travailleurs telle qu'énoncée dans la loi, aujourd'hui personne n'en connaît la hauteur. Comment socialement on peut accepter dans l'environnement que le nôtre aujourd'hui qu'on s'engage dans un tel processus sans maîtriser à l'avance ce que cela viendrait devront, par exemple, disponibiliser pour répondre aux droits des uns et des autres. C'est des préalables importants. Un autre aspect capital. Que voulons-nous de notre pays dans cet environnement eu égard au défi du leadership au niveau ne fût-ce que de l'Afrique centrale? Parce que nous lancer sur la piste telle que nous voyons aujourd'hui les choses se profiler, mais il y a risque que cette société hautement stratégique soit cédée à un autre concessionnaire qui a pratiquement tous les autres ports environnants au niveau de l'Afrique centrale. Ça va être quoi? Accepteriez-vous ou admettriez-vous que quelqu'un qui a investi, je prends pour illustration, autant de millions au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau du port de Pointe-Noire, et qui s'investit pour le chemin de fer Congo-Océan, donc de Pointe-Noire à Brazzaville, vous pensez que celui-là viendrait investir dans la même proportion pour relever nos ports et que ce port fasse concurrence au port, par exemple, de Pointe-Noire? Non, ne nous l'aurons pas. Nous risquons d'aliéner nos attributs de souveraineté et surtout nos capacités à devenir l'État qui aura le leadership au niveau de l'Afrique centrale.
Mais d'abord, Osangobe, sur Osangobe, revenons d'abord. Oui.
C'est un combat qui se mène à trois niveaux. L'intérêt de la République, l'intérêt de la société et les droits des travailleurs.
Oui.
C'est que les gens comprennent. On n'est pas opposé à la réforme. C'est une loi qui a été votée, mais telle que les choses ont été menées par les copyrights et telle que le gouvernement est en train de précipiter les choses, c'est cela qui ne rassure pas. Et nous avons des raisons probantes pour justement adopter la position que la nôtre aujourd'hui.
Oui.
Que les chaises soient ouvertes, que les négociations soient transparentes. Nous allons faire valoir nos éléments dans l'intérêt de tout le monde et on trouvera une solution qui agrée tout le monde.
Oui, mais voilà. Sango, mais on sait qu'il y a cette réforme a été lancée depuis longtemps, les copyrights. Il y a un auditeur qui a évoqué aujourd'hui, si on peut l'appeler la triste expérience avec Progoza, peut-être, et tout ça. Mais aujourd'hui, le problème réel se trouve à quel niveau? Comment la société n'arrive pas à se redresser malgré la réforme lancée, la transformation, tout ça? En bref, le problème se trouve à quel niveau? En bref.
Aujourd'hui, pourquoi la société n'arrive pas à se redresser? En premier lieu, nous interpellons le ministre des Transports et Voies de Communication. Nous devons être clairs et respectueux des auditeurs. Est-ce normal que depuis qu'il y a la redevance logistique terrestre, qu'aujourd'hui, l'argent de cette redevance serve en priorité à la société, par exemple, Congo Airways, à plus de 4 millions, encore que nous venions d'apprendre qu'on doit encore prélever de ces fonds pour que la mise de la SCTP soit à 10 millions par exemple, alors que la SCTP elle-même a besoin ne fût-ce que des engins d'élevage au niveau de ses ports. On oblige à la société de signer les contrats étaient signés à la primature, donc c'est sur ordre du gouvernement, pour que la SCTP c'est contente des engins loués auprès chez OGFREM et chez Lédia ainsi que le groupe Bolloré. Est-ce que cela est normal alors que nous avions plus de 40 millions de disponibles qui pouvaient être utilisés et prioriser des acquisitions neuves et permettre à la société de résister utilement? Vous ne trouvez pas que c'est une stratégie maintenir la société à genoux pour justifier justement la cession au privé dans des conditions qui ne rassurent personne
voilà.
Et qui vont
poser
les droits
voilà.
Des travailleurs.
On va revenir à vous, Lambert Osango. Et là, vous avez raison, confiance et Kinshasa qui pensait que le problème, c'est au niveau de la volonté politique, ça qu'on trouve dans tous ces procédures.
La volonté politique
voilà.
Est l'impunité comme un auditeur
vous aussi. Vous venez de le dire. Merci.
Nous avons toujours demandé des sanctions en charge de tous les mandataires qui ont eu à mal gérer la société ou les sociétés d'État.
Mais ça n'arrive pas.
Ont déjà été arrêtés et les biens détournés, récupérés au profit des sociétés respectives.
Mmh. Et on n'a parlé pas. On va revenir à vous, Lambert Osango. Voilà.
Payer les prix
de ceux qui ont mal géré. Voilà, merci.
C'est une négociation tolérée peut-être à dessein.
On va revenir à vous. On va écouter Michel et professeur Robert ici à Kinshasa, 081-890-6315.
Votre notaire, vous y allez, le rappeur au campus, le campus service, le rappeur.
Après la ville de Goma, Radio Capi célèbre son 10 ans des Nations Unies avec ses auditeurs de Bounia dans Okapi Service.
Monsieur Rousseau a une question.
Oui, je vous remercie de m'avoir accordé cette parole. Ma question est intitulée de la manette.
Venez nombreux à l'enregistrement de grandes émissions le mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2015 de 10h à 12h dans la salle de l'hôtel Moscou. Au programme, les Nations Unies, la paix en Ituri et l'emploi des jeunes. Au Capi Service à Bounia, un rendez-vous à ne pas rater avec Martin Ngombombala.
Voilà, c'est la semaine prochaine, Marcel Ngombo, Nonongo et Abounia en direct, ensemble avec les auditeurs de cette partie de la RDC. Merci pour votre fidélité. Michel, vous êtes à Matadi dans les Congo central. Bonjour Michel.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les uns et les autres en temps vers la dernière partie de cette émission, vers la fin. On vous écoute, Michel. Entre ce point de vue, qu'est-ce qui doit être fait pour quand même rendre cette entreprise plus performante?
Moi, je crois que l'État, notre État, doit d'abord se poser la question. Quelle est sa vraie mission? Frère, privatiser les sociétés n'est pas une solution sanitaire. Je crois que nos dirigeants voyagent. Ils vont dans des états voisins et ils trouvent ce qui se passe. Vous savez, lorsque l'État crée une société, le bénéfice vient en deuxième position. Mais ce qui vient en première position, c'est l'intérêt général. Donc l'État crée une société pour d'abord faciliter la population. Mais si vous posez la question, pourquoi la SCPD souffre? Mais la solution c'est lui-même l'État. Il a commencé d'abord par tuer la SCPP pour donner la chance à ceux qui avaient des gros véhicules ici pour entrer dans la route numéro 1, dans la route nationale.
Mm-hmm.
Mais nous avons vu que tout le monde qui faisait parcourir leurs marchandises de Matali à Kinshasa, ce sont ces gens qui ont acheté des longs véhicules et maintenant qui se sont enrichis, ils veulent encore maintenant entrer dans la voie ferrée. Pourquoi nous devons nous poser la question? Si aujourd'hui, nous voulons privatiser dans l'électricité, dans l'eau, nous voulons privatiser presque tout. Non, l'État restera avec quoi? Moi, en tout cas, je commence à comprendre. Si nous n'avons pas, si ces gens n'ont pas voulu, ces gens qui ont voulu occuper le Congo, s'ils n'ont pas pu, ils veulent le faire autrement. C'est comme l'invité vous le dit, nous devons ouvrir les yeux. Nous dormons tellement trop que nous donnons tout comme si rien n'était. Il y a des choses qui dépassent. Parce que si nous devons faire en sorte que tout soit privatisé, mais nous allons souffrir. Je vous donne l'exemple de nos écoles. Aujourd'hui, les écoles publiques de l'État souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a une pluralité des écoles privées. Et qu'est-ce qu'ils font? Si vous allez dans les écoles privées, dans les écoles privées, vous allez voir, il y a d'abord des minéraux qui coûtent cher, tout. Et au détriment des écoles publiques. Mais nous devons, il y a des choses qui appartiennent à l'État, que l'État doit gérer. Si l'État fait ça, c'est l'État nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Mon frère, calculons la licence. Nous avons des péages presque partout. Mais pourquoi c'est l'État-là ne nous dit jamais combien entre chaque année dans ce péage? Il y a l'argent qui entre. Ça va où? Est-ce que cet argent-là ne peut pas financer le sujet de transport? C'est pourquoi chaque fois que je vous dis, nous avons un État fantôme. Ne les boudez pas, mon frère. Ne les boudez pas. Parce que vous allez voir les mêmes gens qui s'enrichissent, les mêmes gens qui font de la guerre à l'aide, après avoir récupéré l'argent, ils viennent pour qu'ils puissent combattre une société. Ça, c'est normal. Je vous en prie.
Merci beaucoup, Michel. C'est profond ce que vous avez dit. Vous estimez que les gens ont suivi volontairement le chemin de fer pour investir dans les camions poids lourds et ce sont les mêmes qui veulent maintenant venir investir encore pour récupérer la société et tout ça, vous chargez l'État congolais qui a la responsabilité de sauver ses entreprises, de les gérer, de punir ceux qui gèrent mal et c'est ça le problème. Vous avez peur que ce soit une occupation voilée des entreprises d'une autre façon et tout ça, c'est la responsabilité de l'État. Professeur Robert, on va terminer avec vous pour les auditeurs. Vous êtes ici à l'Université de Kinshasa. Vous avez eu l'occasion de suivre les uns et les autres depuis le début de cette émission. Privatiser, n'est pas privatiser, mais le souci reste quand même le redressement de cette grande entreprise pour qu'elle fasse, qu'elle joue son rôle aujourd'hui dans l'économie nationale. Professeur Robert, votre point de vue.
Merci, mon Serge. Bonjour à toi et à tous les amis et tous les auditeurs de l'Ocapis. Bon, mon problème, je voulais tout simplement peut-être reposer le problème de copyright. Nous avons dit en 2008, Copyright a fait une étude. Cette étude a permis à l'État de se désengager des entreprises. Des entreprises comme RVA, comme ATRA, comme Régie des Eaux, ce sont des sociétés commerciales aujourd'hui. Mais depuis que ces entreprises sont devenues des sociétés commerciales, il n'y a qu'un seul actionnaire. Il n'y a jamais eu d'autres actionnaires. Et je m'imagine que l'État aurait dû faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour chercher des partenaires qui peuvent faire partie de ces entreprises. Alors, la souveraineté, c'est vrai, l'État doit toujours avoir une part dans les sociétés importantes. Et puis, on a constaté que Copyright n'a pas réussi sa réforme parce que, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de véritables réformes et de véritables acteurs qui peuvent travailler dans ces entreprises ou être des actionnaires réels. Parce qu'une entreprise commerciale, elle peut avoir plusieurs formes. Soit c'est une société par action à responsabilité limitée, et les actionnaires sont là. Soit c'est une société en commandite simple, il faut donner cette forme-là, ou c'est une simple société en nom collectif. Donc, cette démarcation n'a jamais été donnée dans ces entreprises qui sont devenues commerciales jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'État étant resté toujours le même actionnaire là-dedans, on voit mal comment il doit encore changer pendant qu'on n'a pas encore finalisé la première action, lancer une nouvelle action pour privatiser seulement une partie. C'est vraiment dommage.
Oui. Dommage, professeur Robert, qu'on ne sera pas allé plus loin parce que là, il n'avons que 40 secondes qu'on va accorder à notre compatriote Osango qui est avec nous au nom de la délégation syndicale. Monsieur Osango, dommage qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir discuter toutes les affaires, mais comme le sujet peut être encore abordé plusieurs fois dans beaucoup d'angles, on revient à vous. En bref, en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à cet échange, monsieur Osango?
Oui, par rapport à cet échange, c'est d'abord informer tous les intervenants que nous allons nous retrouver à la primature. Nous avons reçu l'invitation à partir de 16 heures et là, nous allons poser les vrais problèmes. Et au stade actuel, il faut jeter des bases pour une réforme qui réussisse. Et c'est le constat fait que le copyright n'a pas bien fait son travail. Un constat qui est réel. Il faudrait que nous ayons le courage et qu'on ne puisse pas aller dans la précipitation au risque de brader ce que nous avons de précieux et que le droit de tout le monde soit respecté. Parce que la population congolaise a droit à des services de qualité, les travailleurs ont droit à ce qui leur revient et la société aussi se doit de soigner son image. Et parce que l'État s'est reconnu coupable dans ces fêtes-là, il faudrait que l'État libère ceux qui doivent se libérer et contrôle ainsi sanctionner objectivement. Faire le contraire, ça va toujours nous amener à des débats sans issue.
Voilà, merci beaucoup. Monsieur Lambert Osango, d'avoir accepté de partager ce sujet avec les auditeurs de Radio Kapi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Riki Tiagala a assuré la mise en nom de Julie Fezaïté au standard et à la réalisation. Gilles Lungembo à la coordination. Pierre Lamy, je vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiokapi.net. Merci et au revoir.